dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que c'est bon? Amen. Quand il y a eu réveil en Pays de Galles, ça me vient comme ça d'un coup là. Quand il y a eu le réveil, c'était pas prévu du tout. Quand il y a eu le réveil en Pays de Galles, il y avait des mineurs, ils quittaient le travail après s'être douchés, bien sûr, parce que vous avez compris, hein. Et ils se précipitaient vers les lieux de réunion. Et il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Amen. C'est-à-dire qu'après une journée de travail, c'était les postes 3-8, je pense, non? J'ai vu comment c'était à l'époque, peut-être pire. Mais ils sortaient et ils se précipitaient vers les lieux de rencontre où la parole de Dieu était prêchée. C'était où? Ben, dans l'arrière d'un bar. Voilà. On prêchait l'évangile dans les bars. On prêchait l'évangile où? Ben, où il y avait une possibilité, tout simplement. Amen. Et un jour, il est devenu un collègue. Il n'osait pas rendre témoignage. Il n'osait pas rendre témoignage. Il était tout jeune converti. Il est devenu pasteur après. Puis quel pasteur? Et voilà que pendant qu'il mangeait, il y en a un qui savait qu'il était chrétien. Il lui dit, allez, parle-moi un peu de Jésus. Et lui, bon, était un peu embêté. Puis il y en a un qui se lève au bout de la table. Il dit, moi, je ne veux pas en entendre parler. Et il y en a un encore plus grand qui se lève et il dit, moi, ça m'intéresse, je veux entendre parler. Ce qui fait que tout le réfectoire avait entendu que quelqu'un, eh bien, était chrétien et que certains voulaient l'entendre et d'autres pas. Et finalement, ben, il a rendu témoignage, il a parlé de Jésus. Et un jour, ce qui lui est arrivé, c'est que il est en train de rendre grâce pour son sandwich. Eh oui. Et puis, pendant qu'il rendait grâce, un chien est venu, il lui a piqué le sandwich. Alors, comme il avait fait, il ne s'est pas dégonflé, il est parti après le chien. Et pendant qu'il est parti après le chien, boum, un coup de grisou. Vous comprenez? Si on n'a pas honte de lui, lui, il n'aura pas honte de nous. Amen. Il aurait pu faire un petit peu, vous savez, comme hein, des fois on arrive à cacher, à dissimuler les choses. Non, non, il a dit, non, non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est mon sandwich, j'ai faim, et je vais le chercher. Et il est parti en courant chercher son sandwich. Et c'est là qu'il y a eu ce boum. Amen. Dieu sait tout. Est-ce que vous savez tout, vous? Moi non plus. Moi non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce qui est important, c'est que lui, il a les regards sur nous. C'est une réunion de prière et j'aimerais vous parler de la prière. Alors, 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. On va parler d'un personnage, on n'en parle pas trop. Mais pourtant, c'est un bel exemple. J'avais fait une étude complète là-dessus, sur ce livre, et sur ce personnage. Et là, ce n'est pas un message tiré de cette étude, pas du tout. Hein. Voilà, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'aime bien parce qu'il y a des points de suspension. Peut-être qu'il a dit autre chose en plus. Tu n'as pas les points de suspension? Oui, ils y sont, voilà. Hein? J'ai dit quoi? Ah, j'ai pas dit les références? Bon, il les avait, hein? Enfin, il les avait. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Alors, Jaïbet, est-ce que vous connaissez la signification de son nom? Il y a une partie souffrance. Mais réellement, c'est « il cause la souffrance ». C'est dit dans le texte, hein? Et oui, je l'ai enfanté avec douleur. Et je l'appelle Jaïbet. Douleur, souffrance. Eh oui. Alors paradoxalement, et nous le constatons avec ce texte, au début de ce texte en tout cas, il était un homme considéré. C'est-à-dire qu'il sortait du lot. On va le voir ensemble. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, un exploit? Est-ce qu'il a combattu une armée tout seul? Enfin, je ne sais pas, on le verra tout à l'heure. Hein. Alors la Bible de Jérusalem traduit, j'ai pris quatre versions. Yébec l'emporta sur ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yébec en disant « J'ai enfanté dans la détresse ». Yébec invoqua le nom d'Israël, du Dieu d'Israël. « Si vraiment tu me bénis, dit-il, tu accroîtras mon territoire. Ta main sera avec moi. Tu feras s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin. » Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Version française courante. Yébec était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Yabès prononça cette prière. « Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Une dernière version, la version Tob. Yébec invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu éloigneras le malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu accomplit ce qu'il avait demandé. Voyez-vous, Yébec n'oubliera pas une chose, c'est que sa mère a beaucoup souffert en le mettant au monde. Chaque fois qu'on invoquait son nom, eh bien, on rappelait cela. Toute sa vie, il s'appellera souffrance, douleur. Waouh ! Pas facile à porter. Hein, on va le voir ensemble. Alors, pourquoi Dieu a-t-il voulu, au milieu de cette lecture qui est quand même aride, parce que c'est une répétition de la famille 2, de la famille 2, de la famille 2, etc. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il l'a voulu ? Que son nom apparaisse au milieu de tous ces noms. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est que Dieu le veut. Dieu veut qu'il ressorte du lot. Alors peut-être est-ce de lui que vient le nom de la ville de Yébec que nous trouvons dans 1 Chronique, chapitre 2, verset 55. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu a écouté la prière de Yébec. Et je crois que nous avons le droit de croire bien sûr, eh bien qu'il écoutera également tous ceux qui vont prier, je dirais, de même du fond de leur cœur. Il n'a pas fait preuve de timidité. Seigneur, bénis-moi. Et puis alors, fais-le bien. Hein. Voilà, si tu, je te dis ce que tu dois me donner parce que j'en ai besoin et on va voir pourquoi. Parce qu'il y a des raisons quand on prie comme cela. L'apôtre Paul semble confirmer cela. Lorsqu'il dit dans sa lettre aux Romains par rapport à la ville, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Amen. Alors, au milieu de toutes ces personnes, je dirais anonymes, Yébec, lui, sort du lot. On ne se souvient pas de lui à cause d'exploits extraordinaires, hein, ni de choses fabuleuses qu'il a pu faire. Mais on se souvient de lui à cause d'une prière. D'une prière. Il n'a pas gagné de grandes batailles, il n'a pas édifié de grands monuments. Non, il n'a pas fait de choses extraordinaires. Mais il a fait une prière. Il a fait une prière. Et je dirais que du milieu de toute cette liste de noms, c'est lui qui va être mis en évidence à cause de cette prière. Alors ce n'est pas évident de porter un nom semblable. Imaginez un petit peu les mots, corrigez pas quel est votre prénom à chacun, mais peut-être que votre prénom quelque part a été un sujet de rire, d'amusement. Hein? Dolores, vas-y. Douleur, oui, oui, Dolores, oui, douleur, oui, oui. Ça peut être aussi pareil, oui. En tout cas, imaginez un petit peu ses petits copains. Imaginez également maman. Quand elle l'appelle pour manger, elle lui dit « Allez, souffrance, viens manger !» Pas évident à porter, vous ne croyez pas ? Moi, j'avais un petit voisin, il s'appelait Jésus. Sa maman, ses parents étaient espagnols. C'était « Jesús !» On entendait « Jesús !» C'était Jésus. Bah, c'est pas facile à porter aussi, Jésus, je vous dis pas. Hein. Parce que si on porte ce nom, il faut aussi lui ressembler. Non ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors toute sa vie, dès sa jeunesse, sa maman lui rappelle combien il l'a fait souffrir. Eh oui. Et ce qui n'est, je pense, pas très bon pour son psychisme. Eh oui. Alors cet homme a pourtant triomphé un jour, je dirais, de, allez, on va l'appeler comme ça, de ce handicap, hein, bien sûr. Et c'est ce que semble dire le texte que, quand il déclare, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Pour ça, je dis, il ressort du lot. Malgré quelque part un handicap qu'il a dès la naissance, une tare qu'il porte sur lui, il fait souffrir. Eh bien, voilà qu'il était plus considéré que ses frères. Alors, ce que vous avez été dans le passé, est-ce que ça doit déterminer votre futur quand vous appartenez au Seigneur? Certains le portent. Je suis venu dans des conditions difficiles. C'était une période difficile. Et ils le traînent avec eux. Mais quand on devient une nouvelle créature, quand on est recréé par le Seigneur, quand on vit le miracle de la nouvelle naissance, toutes choses sont finies, c'est le passé. Et voilà que maintenant, on va marcher en nouveauté de vie, maintenant on va être quelqu'un d'autre. Je suis enfant de Dieu. Jésus, c'est mon frère. Quelle fierté, non? Eh oui, moi je suis fier d'appartenir à Jésus, d'avoir Jésus comme mon frère. Amen. Parce que c'est important, eh oui. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est lui. Alors au milieu d'un environnement, je dirais en décomposition, voilà que Jaïbet s'est levé et il a fait cette prière parce qu'il ne voulait plus subir, mais il voulait triompher. Amen. Des fois la prière c'est « Seigneur, si tu peux, tu sais ce qu'on veut faire. » Oui, c'est bien. Mais Seigneur, ce que je veux c'est triompher. Je ne veux plus blesser ma tête, je ne veux plus encaisser les coups, mais je veux lever la tête et je veux que tu me serves de bouclier. Amen. Et vous savez, c'est des prières que Dieu aime. Quand justement notre état d'esprit, non pas de subir, mais de revendiquer qui nous sommes. C'est mon Père. Jésus, tu es mon frère. Je fais partie de la lignée de Dieu. Oui, j'étais perdant. Je m'appelais Jaïbet, Dolores. Pour les dames, hein. Mais aujourd'hui, je m'appelle enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans les cieux. Ce livre qui sera ouvert un jour, on y lira mon nom. Bernard, entre dans la joie de ton maître. Alléluia! Vous parlez un peu comme ça des voix? C'est pas par orgueil, mais moi je me parle un peu comme ça des fois. Je dis, oh, t'as assez subi là, oh! Eh, il a assez joué avec toi l'adversaire là. Stop, tu te tais maintenant. Tu arrêtes. Seigneur, tu es là. Et vous voyez, ça change tout. Ça change tout. La vie est plus facile. On a comme, je dirais, une impression de s'élever, de prendre de la hauteur. On ne voit plus les choses pareilles, cette montagne. Tout d'un coup, on la voit s'abaisser. Alléluia. Je le vis parce que tu es là, Seigneur. Pas parce que je suis devenu quelqu'un de... Non, je sais que je te dois tout. Et que sans toi, je ne peux rien faire. Mais ce que je fais, c'est que je prends conscience que tu vis en moi. Je prends conscience qu'avec toi, tout est possible. Je prends conscience, Seigneur, qu'un mot de ta part et la situation est complètement inversée. Tu le fais fuir. Une personne qui est devenue une sœur un jour racontait ses témoignages. J'étais en centre de vacances à l'époque. Puis elle rend témoignage, comme chacun de son tour rend témoignage. Elle était témoin de Jéhovah. Puis elle s'est convertie. Quand elle s'est convertie, elle a compris qu'elle avait été trompée pendant des années. Alors elle ne voulait plus se tromper. Elle ne voulait plus être trompée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Quand, par exemple, ça frappait à la porte, elle l'a fait, elle aussi, hein, en tant que témoin de Jéhovah, du porte-à-porte, hein, elle disait, Seigneur, écoute, va lui ouvrir. Présente-toi à la porte et va lui ouvrir. Si c'est un des tiens, il rentre. Si ce n'est pas un des tiens, il va fuir. Amen. Et c'est comme ça qu'elle commençait à vivre en nouveauté de vie. En disant, si c'est bon, ça va se passer. Si ce n'est pas bon, c'est la fuite. Amen. Et comme ça, elle restait prudente, tout en ayant la foi, tout en sachant que Jésus était là, puisqu'elle l'envoyait chaque fois à la porte. Va répondre, Seigneur. Et des fois, ça peut être évident. Hein. Mais voilà. Alors, qu'y a-t-il de si exceptionnel dans cette prière pour que pendant des siècles, nous, les prédicateurs, nous en parlions? Parce que depuis des siècles, on parle de Jaïbeth. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que de cette prière, elle a suffisamment plu à Dieu pour qu'elle soit rapportée justement dans l'Écriture. Alors, sa prière est en quatre parties. Il a demandé, c'est pas de l'égoïsme, je vous rappelle. Le Seigneur a dit, tout est à vous. Non ? Donc, c'est pas de l'égoïsme. Il voulait sa part. Alors, il a demandé que Dieu le bénisse. Est-ce qu'il vous arrive de demander que Dieu le bénisse, vous bénisse ? Qui le fait ? Levez la main. Ben oui, moi je demande que Dieu me bénisse. Je ne demande pas toujours pour les autres. On va voir, on va y venir. Mais je veux d'abord être béni pour pouvoir bénir les autres. Il y a une logique, hein, on va en parler tout à l'heure. Il a demandé également que Dieu agrandisse son territoire. Ah, il est gonflé, lui. Mais non. Non, il voulait que Dieu, quelque part, eh bien, prenne la place qu'il lui... Que Jaïbeth prenne la place que Dieu lui a accordée. N'a-t-il pas dit à Josué, avance, hein, tu ne tournes ni à gauche ni à droite, non, pas du tout, tu avances, et chaque parcelle que foulera la plante de tes pieds, c'est à toi. Mais à partir de là, Josué, je ne parle pas de Josué, mais à partir de là, Josué, il avait la responsabilité d'avancer, de ne pas reculer. Il fallait avancer, c'est à toi. Ça, c'est le terrain de Dieu. Amen. Et c'est pareil pour nous. Quoi que nous fassions, quoi que nous demandions au Seigneur, nous l'avons, nous le recevons, et à partir de là, il ne faut pas se laisser dérober. Ne jetons pas nos perles au pourceau. D'accord ? Moi, j'ai pris une leçon là-dessus, je vous le dis. C'est pour ça que j'en parle et je peux en parler facilement. Il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Il y a des choses qui doivent se dire, absolument, mais il y a des choses qui sont pour nous. Quand je parle des pourceaux, excusez-moi pour le terme, mais c'est des personnes qui sont totalement ignorantes de l'Évangile, ignorantes de l'amour de Dieu. Et si on n'est pas prudent, ce que nous allons leur donner, en croyant leur faire plaisir, ça va être tourné en dérision, ça va être roulé dans la boue, excusez-moi pour le terme, mais c'est cela, et ça ne servira à rien. Quand c'est le temps, il faut le faire. Et tant que ce n'est pas le temps, eh bien, il faut se taire. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas donner. Et après, quand c'est le moment, Dieu nous le montre. Hein? Et puis, à partir de là, il faut le faire. Il a également demandé que la main de Dieu soit avec lui. Alléluia ! Il vaut mieux avoir la main de Dieu que la main de certains. D'ailleurs, il est dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Il vaut mieux être bien accompagné. Amen. Il y a des fois, on est seul. En tant qu'enfant de Dieu, on est seul, enfant de lumière. Eh bien, il vaut mieux être seul qu'avec des lumières à moitié teintes. Des lumières qui, vous savez, toc, 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 toc. Vous n'y voyez plus. Mais t'es ébloui quand ça fait clignotant. Hein? Eh oui. Non, il faut absolument que la main de Dieu soit avec nous. Il a demandé que Dieu le préserve du mal. Alléluia. On va reparler de tout ça, je vais le détailler tout à l'heure. En tout cas, c'est une prière toute simple que la plupart d'entre nous pouvons faire. La plupart d'entre nous pouvons le faire. Alors, on va considérer ces quatre points, un à un, Et on va voir comment nous pouvons nous les appliquer. Amen. Nous les approprier quelque part. Hein. Savons-nous que Dieu ne fait point de différence? Nous le savons, j'en ai parlé déjà deux, trois fois. La première chose que Jaébed demande, c'est que Dieu le bénisse. Jaébed demande à Dieu de lui ouvrir son précieux trésor. Vous savez qu'on a un père qui est riche? Mon épouse m'avait souvent fait des réflexions. On a eu de bonnes petites réunions. Bonnes mais petites. Vous voyez? Nous, on est... Bon, à la vue de certaines églises, méga-églises, c'est vrai que ça fait petit. Hein, on est quelques-uns ce soir. Mais on pourrait être plus. OK? Mais l'important, c'est que Dieu soit là au milieu de nous. Parce qu'il y a des fois des réunions où c'est méga-church qu'on dit. Hein, et puis, est-ce que l'Esprit de Dieu est au milieu? Je souhaite que oui, moi. Je souhaite que oui. Mais ça se pose des questions des fois. Hein. Donc, là, Dieu lui ouvre son précieux trésor. Là où justement se trouvent toutes ses bénédictions. Il les tient en réserve pour qui? Eh oui, pour Marcelin. Puis il est grand. Marc est encore plus grand. Non mais Dieu les tient en réserve pour qui? Moi, je suis trop petit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour chacun d'entre nous. Il ne fait exception de personne. Donc, c'est pour chacun d'entre nous que Dieu tient en réserve des trésors extraordinaires. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose que de demander à Dieu d'être béni. Et on ne va certainement pas demander la malédiction. Un jour... Je parle à mon patron. Mon patron, je l'avais soulevé un jour et je l'avais jeté dans la rue. Pour vous dire, j'étais horrible. Hein. Et un jour, je lui ai dit que je priais pour lui. Il m'a dit, tu ne pries pas pour qu'il m'arrive des malheurs? Je lui ai dit, non. Non. Même si j'aurais souhaité, avant de me convertir, le jeter dans le feu. Ah oui, oui. Oui, c'était les sentiments qui m'animaient. J'avais horreur de l'injustice. Donc là, il fallait y aller, hein, jusqu'au bout. D'ailleurs, je partais au boulot, demande à Marie-Paul si c'est pas vrai. Je ne savais pas si le soir, j'allais rentrer chez moi. Je n'allais pas me retrouver en prison. Devant un juge. C'était comme ça. C'était à couteau tiré. Vous voyez, ils étaient là. C'est la capitale, c'est Thiers, je crois. Hein. Voilà. Mais pour vous dire que c'était chaud. C'était hyper chaud. Ce n'était pas hyper chaud par rapport au travail. C'était hyper chaud par rapport à ce qui se passait. À ce qui bouillonnait dans les cœurs. Bon, Dieu n'a pas permis. Au contraire, il m'a permis de lui parler de son amour. Parler de son amour. Eh oui. Alors, on ne demande pas la malédiction, donc c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Il y a sans doute, bien sûr, autre chose de plus précis à demander. Et quelquefois, il faut que ça soit précis. Précis. Et je pense que Jaébed a dû se souvenir d'Abraham, son ancêtre, à qui Dieu avait dit, en Genèse chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation ». Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. Retenez ça. Alors, ce que Jaébed voulait, c'était justement être béni, mais surtout être en bénédiction, je dirais, pour le monde. Et Dieu veut nous bénir pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Autour de nous, c'est ce que Dieu veut. Que nous soyons quelque part des instruments de bénédiction pour lui, pour Dieu, mais également pour le monde. Là, il y a le plan vertical et il y a le plan horizontal. Et Dieu veut que sur le plan horizontal, d'abord c'est notre vocation, c'est avec notre appel, nous soyons ses témoins. Nous soyons de ceux qui justement, eh bien quelque part, communiquent la lumière, communiquent l'amour de Dieu. C'est ça dont nous devons être habités quelque part, hein. Alors, il n'y a pas de mal à prier pour que Dieu nous bénisse. Vous le comprenez de cette façon-là ? Ainsi, c'est justement dans le but d'être une bénédiction. Alors, il n'y a rien de mal à vouloir plus. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'orgueil. Mais Seigneur, si tu me donnes plus, je peux communiquer encore plus. Vous voyez sous cet angle, hein ? Si, Seigneur, tu me donnes plus, si tu m'enrichis, mais je peux plus donner à ton œuvre. Je peux plus, quelque part, investir. C'est bien le petit garçon avec quelques poissons et quelques pains. Mais c'est mieux si c'est un camion. Il y en a plus qui peuvent être nourris. Un petit semi-remorque, là, hop, un 35 tonnes. Bon, j'exagère, vous savez comment je suis. Hein. Mais c'est important hein, de vouloir, justement, pour être quelque part plus efficace. Alléluia. Le monde ne se gêne pas pour nous présenter, là, nous faire miroiter certaines choses. Mais moi, je préfère ces choses qui ne brillent pas, mais que Dieu nous donne et qui font du bien, qui apportent la grâce, qui communiquent l'amour du Seigneur. Alors, si vous voulez de la sagesse, par exemple, pour aider les gens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas de micro, hein ? Mais il a dit, hein ? Priez pour la sagesse. Sonne-moi, Seigneur, d'être sage. Amen. Donne-moi de la sagesse, Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1,5. Qu'il la demande à Dieu. Tout simplement. Demandez pas d'aller faire un séminaire pour... Oui, quelquefois c'est ça. Hein? J'entends qu'il y a des séminaires de guérison, pour apprendre la guérison, pour apprendre à guérir. Mais je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Hein? Il y avait l'école des prophètes, l'Ancien Testament, puis il y a eu la grâce de Dieu quand Jésus est venu, et à partir de là, Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Ben oui. Et ceux à qui il s'est donné, eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Il faut donner. Amen. On devrait entendre d'autres prophètes le dimanche matin. Quand je dis prophètes, c'est les prophètes du Nouveau Testament qui reçoivent la pensée de Dieu pour un moment précis et qui la donnent. Quand Dieu dit, c'est le moment. Donne. Et maintenant, on donne. On donne avec, avec sagesse. On donne avec sérieux, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut se servir de notre nature. Il y en a qui auront une parole plus facile quand ils vont la donner. Ce sera, vous savez, un beau paquet, bien empaqueté, avec un beau papier par-dessus, un petit nœud, vous savez, un petit ruban nœud. Voilà, ce sera joli. Et puis d'autres, parce que c'est leur nature, ça va être plus brut. Plus brut. Arrête-toi ! Ouf ! Faites un bond sur votre chaise, mais c'est vrai, il l'a dit, arrête-toi. Et puis, il y a l'explication qui vient avec. Un don spirituel, c'est pour exhorter, c'est pour aider à aller de l'avant, prendre conscience, mais c'est jamais pour détruire. Il faut prendre conscience de ça. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pour édifier. Mais c'est pas pour tuer. Ça, ce n'est pas des dons spirituels qui viennent de Dieu. Alors, je continue parce que je m'écarte là. Voilà. On va y revenir. Hein. Alors, si vous voulez plus, par exemple, pour, dépenser plus. C'est-à-dire, vous voulez plus, par exemple, pour dépenser plus en repas, en bombance. Qu'est-ce que j'ai noté ? Moi, j'ai noté en frivolité. Je dis ça sort bien, hein, frivolité. Être frivole, léger, vous voyez un petit peu. Oui. Alors, est-ce que vous allez être exaucé ? Je ne sais plus, quand même. Demandez, vous recevrez. Non mobile. Non mobile. Pourquoi est-ce que je demande ça au Seigneur ? Quel est mon mobile ? Eh oui. Et si tout ce que vous voulez, c'est en mettre plein la vue aux autres, alors vous avez des chances de ne pas être exaucé. Et là, vous pourrez dire, le Seigneur ne m'a pas répondu. Alléluia. Comme ça, tu restes un peu plus humble. Tu redescends un petit peu, à vue humaine, tu es comme moi. Tu n'es pas plus grand. Mais c'est comme ça, hein. Mais si, par exemple, ce que vous voulez, c'est plus de capacité, plus, quelque part, intérieurement, des choses fortes pour mieux servir les autres, pour mieux servir le Seigneur, alors demandez. Et là, vous recevrez, demandez, vous recevrez. Et votre vie sera en bénédiction. Amen. Ne vous privez pas. Je rappelle, attention mobile. Moi, ça a traîné hein, pour le baptême de l'Esprit. Quand le pasteur a fait un appel, baptême de l'Esprit, allez, ceux qui veulent recevoir le baptême de le Saint-Esprit, avancez-vous. Moi, je m'avançais avec mon arrière-pensée, c'était, ben, au moins, je serai comme eux. C'était pour être comme les autres. Ben, je vous ouvre mon cœur, mais c'est ce qui s'est passé. J'étais novice. Je découvrais les choses de Dieu. Alors, c'était pour être comme les autres. Et puis, je ne recevais pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, oui, chaque fois qu'il y avait un appel, j'y allais. Mais bon, je ne reçois pas, je ne sais pas. Hein, mais bon. Et puis, un jour, j'ai eu un serviteur de Dieu. On l'avait gardé une semaine à la maison. Et ce serviteur de Dieu, il me dit, tu es un Saint-Esprit, Bernard. Alors, c'était un Gallois, hein, donc avec son accent et tout ce que vous voulez. Mais il parlait bien français quand même. Et il me dit, comme ça, tu es un Saint-Esprit, Bernard. J'ai fait non. Il me dit, et alors ? Bon, j'y vais quand il y a un appel, j'y vais, quoi. Après, je ne demandais pas dans la journée, hein, je ne demandais pas les jours suivants. Hein, mais c'était pour être comme les autres. Pour leur ressembler, hein. J'étais rentré dans un moule quelque part, hein. Donc il faut ressembler aux autres. Et puis, ni une ni deux, il m'attrape là, il était à gauche de moi, il m'attrape l'épaule, il me tire, il me dit « Papa, donne-moi du pain !»« Papa, donne-moi du pain !» Et moi, j'ai perdu l'équilibre, j'allais tomber de ma chaise. Et il ne me lâchait pas, et il me tirait, j'avais du pain sur la table, hop, j'ai donné le pain. Il m'a lâché. Il me dit, tu vois comment tu dois demander le baptême dans le Saint-Esprit. Tant que tu ne l'as pas reçu. Oh, c'était une leçon, vous savez, ça fait chaud et froid. Parce que lui, il ne riait pas. Hein. Moi, je vous dis un peu comme ça. Hein. Mais là, c'était du sérieux. Il me dit, voilà comment tu dois le demander. Guerre après, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Hein. Mais prenez conscience que c'est du sérieux, l'œuvre de Dieu. Amen. Et que ce n'est pas pour en mettre plein la vie aux autres. Parce que là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que c'était pour servir Dieu. Et quand je demandais, Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour, quelque part, être utile à l'œuvre de Dieu, à l'Église. J'étais à Carpentras à l'époque. C'était pour que l'Église de Carpentras soit bénie par ce que j'aurais reçu. Vous voyez un petit peu ? Alors, si vous voulez plus de capacité pour ça, demandez-le et vous allez recevoir. La deuxième chose, c'est que Jaïbet s'est certainement souvenu également d'un autre personnage de la Bible que nous connaissons, son ancêtre Jacob. Usurpateur, trompeur. Oh, pétard. Et oui, Jacob, c'était ça. Hein. Il a même lutté avec Dieu. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. Hein. On ne voit pas beaucoup de témoignages où quelqu'un a lutté contre Dieu toute une nuit. Et ce qui s'est passé pour lui. Alors quand au petit matin, Dieu il lui dit « Laisse-moi aller », Jacob répond quoi ? « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies plus fort. Béni, béni. Amen. Tu m'as fait du bien, que tu m'as donné, que tu m'as rempli. Amen. » Et c'est à ce moment-là, c'est pas avant, que Jacob est entré dans le pays de la promesse. C'est là qu'il a prospéré et que ses descendants eh bien, ont béni le monde entier d'incroyables bénédictions spirituelles. C'est à partir de là. Il a lutté avec Dieu. Tu as trouvé qu'il était bien, il était prêt maintenant. Allez, je te bénis. Et c'est de Jacob également, de ses descendants, que le Messie est venu dans le monde. Alors oui, Dieu veut nous bénir. Amen. Dieu veut nous bénir. Mais parfois, il faut lutter. Nous, on aime bien, hein. On a l'habitude dans ce monde moderne, maintenant, on touche des... C'est tactile, hein. Tac, 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 entrez. Pof, ça descend. Hein ? Ah oui, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais si on veut, la Bible nous dit que le royaume des cieux, il est pour ceux qui sont violents. C'est pas violent à tout casser, tout détruire, mais ceux qui se font violence face à la passivité ou la facilité plutôt. C'est une promesse de toi, Seigneur. Alors je veux recevoir. Quelque part, souvenez-vous de cette épaule qui est tirée par une main d'un personnage plus âgé et qui dit « Papa, donne-moi du pain. Papa, donne-moi du pain. » Et c'est cela. Amen. Alors à celui qui a soif, Jésus a promis quoi ? Des fleuves d'eau vive. Amen. Des torrents de bénédiction. Et je crois que le signe le plus sûr qu'on est en pleine croissance, qu'on est en train de grandir, c'est quand on a envie, quelque part, de servir le Seigneur. Que ma vie te serve, Seigneur. Que je n'ai qu'un désir, Seigneur, c'est être un instrument. Oh, Seigneur, donne-moi des armes. Mais dans mon esprit, Seigneur, la prière que tu veux que je prie. Parce que, Seigneur, je veux être vraiment une bénédiction. Amen. Vous savez, tant de gens ne regardent pas, je dirais, au-delà de leur propre personne. Non, non, il faut plus. Pour certains, c'est moi, rien que moi. D'accord ? Eh oui. C'est pour ça que Jérébeth, lui, il a demandé en plus, étant mes limites, agrandis mon territoire. Et là, pourquoi ? L'ennemi essaie toujours, quelque part, de nous serrer, de nous limiter. Oh ! Tu demandes ça, mais tu n'es pas capable. Dieu va te donner du temps avant de te donner, et tu crois que tu vas pouvoir persévérer jusqu'au bout ? Rappelle-toi la dernière fois. Vous savez, il s'en passe des choses là. Hein ? Eh oui. Quand le Seigneur a demandé à Pierre et aux disciples de prier avec lui, parce qu'il était dans le jardin de Gethsémané et que c'était le moment, un moment charnière. Il les a trouvés endormis. Ils reviennent. Ils retrouvent endormis encore. Eh oui, c'est important. Eh oui, l'adversaire, lui, justement, ce qu'il veut, c'est stopper les élans de foi. Arrêter ceux qui, justement, prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Amen. Un rôle à jouer, tout simplement pour notre propre génération. En tout cas, l'ennemi sera toujours de nous serrer de près, de nous limiter. Combien de fois Israël a dû combattre contre les Cananéens, contre les Philistins, parce que ceux-ci arrivaient toujours à grignoter du terrain. Rôle de l'adversaire, grignoter dans nos vies. Josué, tu ne te détourneras pas, tu ne reculeras pas, ça t'appartient. Et c'est ça que Dieu nous dit ce soir. Ce que je te donne, il ne faut pas que tu le perdes. C'est précieux. Amen. Il faut que tu le gardes. Alléluia. Alors oui, qu'on est quelque part dans une sphère d'influence mauvaise, c'est difficile d'avancer. Mais le Seigneur sait nous mettre au large. Si on lui demande, il sait nous mettre au large. Eh oui, vous sentez que vous êtes comme bloqué ? Eh bien, demandez à Dieu d'élargir vos limites. Vous serez béni et vous serez aussi en bénédiction. Amen. Parce que c'est cela que Dieu veut. Et demandez qu'il vous accorde des dons spirituels. Alléluia. Ils seront utiles dans votre témoignage, dans ce monde dans lequel nous vivons, bien sûr. Demandez à Dieu qu'il vous donne de la passion pour son service. Alléluia. Également des outils qui sont nécessaires pour bien le servir. Vous savez qu'il aime entendre quand quelqu'un lui dit « Seigneur, je n'ai pas parlé. » Il y a des grands hein, qui avaient la langue embarrassée. Hein. Ouais. Moi, je me souviens le papa était directeur d'un cirque, les enfants travaillaient avec lui. Et il y a un fils qui a été appelé, ils sont convertis, bien sûr le papa a été converti, et il y a un des fils qui a été appelé à servir. Le problème, c'est qu'il bégaye. Je l'ai entendu, moi. Il bégaye. Mais quand il prêche, il bégaye plus. Il ne cherche pas ses mots. Ça sort. Et ça touche. C'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Je ne suis pas capable. je te rendrai capable. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu veuilles travailler pour moi. Il faut que tu veuilles faire du bien autour de toi. Amen. Il va vous donner également de la passion, il va vous donner de persévérer, il va vous donner tout ce qui sera nécessaire. Alléluia. Oui, Dieu cherche des instruments. Faudra-t-il qu'il passe à côté de vous et ne se serve pas de vous ? Question. Parce que là, vous risquez de voir les autres être utilisés et vous laisser de côté. Eh oui. Dans Isaïe 54, versets 2 et 3, Dieu parle par le prophète et il dit « Élargis l'espace de ta tente. » Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge les cordages, affermis les pieux. Alléluia. On ne pourra pas pousser les murs, on peut faire deux cultes. Amen. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. Et vous avez à Abidjan, à l'époque, quand j'y étais, 1,5 million de chrétiens. C'est-à-dire que vous roulez en voiture pour vous déplacer d'un culte à l'autre, parce que je faisais trois cultes le dimanche, vous passez donc d'une église à une autre, entre-temps vous passez à des carrefours, des rues, et vous avez des gens avec la Bible sous le bras, avec les enfants, avec la femme, tout le monde, hein, et vous en avez. Alléluia. Mais ça, quelque part, ça s'en réveille. Hein. Et pourquoi nous ? Pas nous. Mais si. Si Dieu veut, le Seigneur le veut, hein? Tu te répandras à droite et à gauche. Amen. Il faut se répandre. La troisième chose, c'est que Jaïbet va demander que ta main soit sur moi, dit-il. Que ta main soit sur moi. Jaïbet reconnaît que de lui-même, jamais il n'arrivera à accomplir l'œuvre de Dieu. Jamais. Notre travail, d'abord, il n'est pas terrestre. Et temporel. Il vise l'éternité. Un jour, il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Amen. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil. Et vous en voulez encore ? Eh oui. Alors le Seigneur Jésus nous dit, Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. » Amen. Moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Maintenant, imaginez que la main de Dieu est avec vous. J'espère, je souhaite. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé quand ce fut le cas dans le livre des Actes, Actes chapitre 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux. D'accord ? Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Moi, je souhaite que quand un inconverti rentre, son cœur soit dévoilé, que Dieu saisisse quelqu'un et dise, voilà ce toi qui viens d'entrer dans ce lieu, voilà ton problème. Voilà, la solution, elle est là. Choisis la vie et tu vivras. Eh oui, ce pasteur-là qui me tirait l'épaule, je l'ai entendu prêcher dans mon église à Carpentras. Enfin, ce n'est pas l'église, mon église, c'est l'église du Seigneur. Hein. Mais dans laquelle je faisais partie, j'étais membre. Hein, voilà. Il prêche, et puis tout d'un coup, il s'arrête. Et dit, au milieu de nous, il y a quelqu'un là, tu sors de chez le docteur. Le docteur t'a dit que tu avais telle maladie. Ce gars, vous savez, c'est un gars de mon village qui n'a jamais mis les pieds dans l'église, qui était là pour la première fois. Vous vous rendez compte ? J'allais lui parler à la fin parce que ma mère est née dans le village. Elle est née à Mazan, dans le village. Hein. Donc, j'allais lui parler. Il était juste après l'école maternelle, en montant la route de Saint-Pierre. Voilà. Et oui, je peux vous dire, je le connais. Et j'allais lui parler. Il m'a dit, oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Mais je disais, tu sais, personne ne lui a dit ça, c'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu te cherche. Amen. C'est pas formidable quand c'est comme ça? Eh bien oui, mais on a envie de ça, on a soif de voir ces choses-là. Amen. La main du Seigneur, c'est l'action de Dieu qui accompagne notre vie, notre témoignage. Il nous est dit dans Marc chapitre 16, verset 20, « Ils s'en allèrent partout prêcher, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. » Alléluia. Vous n'avez pas envie de voir des miracles et des prodiges, hein? Qui a envie de voir ça? Je n'ai pas dit lever la main, hein, mais de vous-même, vous avez levé la main parce que vous voulez le voir. Amen. On a envie. C'est écrit, pourquoi on ne le vit pas, nous? Vous savez pourquoi on ne le vit pas? Parce que nous, on a du confort. On est bien. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire des personnes qui n'ont rien et qui vivent le miracle. Ils n'ont rien. Donc, ils se tiennent à genoux devant Dieu. Ils se tiennent devant le Seigneur. Premier culte à Abidjan, l'église où j'étais au Temple de la Victoire, je ne me rappelle plus le quartier, Yopougoum. Premier culte, 6h30. Ils n'ont pas de moyen de locomotion si ce n'est les taxis ou les bus. 6h30 du matin, premier culte. Ils se lèvent à 4h30 du matin. Ils vont mettre une heure pour traverser Abidjan. Pour être à l'église à l'heure. Amen. Après deuxième culte, donc juste après, mais moi je partais souvent, je partais dans une autre église, parce que j'ai visité comme ça, pendant 21 jours, j'ai visité plein d'églises. J'ai fait mariage, j'ai fait les obsèques, j'ai tout fait. Voilà. Et oui. Alors un jour, alors que ce collègue pasteur était en visite dans une église où j'étais, des personnes sont venues le voir. Et on dit, pasteur, c'est formidable ce que vous nous dites. Mais pourquoi nous ici, on ne vit pas ces choses-là? Avec une question et la réponse était rapide, brève. C'est votre faute. C'est ce qu'a répondu le collègue. Il a dit, parce que vos pasteurs, ils viennent de voir en Afrique. Et ils obtiennent plus de choses que nous. Donc ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de l'Église. Et comme je dis, j'ai vu. Ils n'ont rien, mais se tiennent devant Dieu. Ils obtiennent. Amen. Ils obtiennent la guérison, ils obtiennent le miracle, ils obtiennent des résurrections. Ils obtiennent des résurrections. Hein. Les muets, ils se mettent à parler. Handicapés, ils se mettent debout. Quand des personnes viennent, et j'ai vu des personnes moi, qui étaient possédées par des choses mauvaises, et au cours de la soirée, ne serait-ce que déjà pendant les chants, ben, ça se manifeste. Ça se manifeste. Et ça, c'est des choses que Dieu nous demande de pouvoir vivre. Mais il faut qu'on le veuille. Hein. Alors l'œuvre de Dieu, ça nous dépasse. Heureusement. Heureusement que ça nous dépasse. Il faut que ça nous dépasse. Si quelque chose se fait, nous devons être capables de dire « Cette chose-là est arrivée, il n'y a que le Seigneur qui a pu le faire. Il n'y a que lui. Ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ça c'est de l'orgueil. » Bon, souvent, je dis, il y a le robinet, il y a l'eau qui désaltère. Qu'est-ce que vous pensez que je suis ? Au robinet, qu'est-ce que je peux être? Marc, robinet, c'est l'eau qui désaltère. Et le robinet, je sais une chose, c'est que le Seigneur, il peut hop, le fermer. C'est des images, hein. Mais bon, on a ma petite tête, je cogite, hein. Voilà. Mais voilà un petit peu. Alors oui, que la main de Dieu soit sur nous. Que nous reconnaissions que c'est lui. J'ai été gardé, moi, une quantité de fois. Au début, je ne savais pas, mais après, j'ai compris. Et quand je me suis converti, eh bien, j'ai réalisé toutes ces choses. J'ai dit, mais j'ai été gardé en vie. J'aurais dû mourir plusieurs fois. Plusieurs fois. La quatrième chose, c'est que Jaïbed va demander aussi, préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Qui aime Azo? Qui aime souffrir? Dites-moi, personne, on n'aime pas souffrir. On aime être bien. Eh oui. Alors une traduction moderne anglaise dit ceci, « En sorte que je ne sois pas cause de douleur. » Vous comprenez ? Eh oui, qu'est-ce qu'il dit là ? Préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas cause de douleur. Alléluia. Eh oui. Alors il y a, semble-t-il, un petit jeu de mots. Son nom, nous l'oublions pas, hein, c'est douleur, qui provoque la douleur. Il a été cause de douleur et il ne veut plus être une cause de douleur. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous n'avez pas été une source de douleur pour d'autres ? Ne répondez pas. Mais chacun a encore son cœur, c'est ce qui s'est passé dans sa tête. Hein, repas des choses, bien sûr. Hein. Alors, il a été cause de douleur. Il ne veut plus être cause de douleur. Il veut qu'au contraire, sa vie soit une bénédiction. Il veut être gardé du mal. Il ne veut plus justement être cause de souffrance, de douleur pour les autres. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier du grand roi. Je suis quelque part l'héritier de l'amour de celui qui m'a aimé plus que tout, qui s'est livré en sacrifice à la croix. Et je ne veux plus que les autres souffrent. Je ne veux plus leur provoquer de la souffrance. Alors une des façons d'être une cause de douleur, vous savez ce que c'est ? C'est de pécher. Le péché est cause de souffrance, de douleur. Le péché a été source de douleur dans ce monde. Amen. Pour le monde, il fait souffrir celui qui commet le péché, mais il fait également souffrir ceux qui l'entourent, ceux qui sont auprès de lui. Il fait souffrir également celui contre qui le péché a été commis. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui peuvent être atteintes. Et par-dessus tout, le péché fait souffrir qui ? Dieu. Dieu. Il fait souffrir Dieu. Genèse, chapitre 6, verset 5-6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit. C'est pas souvent que c'est écrit. Hein? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire que le cœur de Dieu était en souffrance. Alors si vous avez oublié que le péché fait souffrir, ben revenez à la croix, où Jésus a supporté justement la souffrance qu'impose le péché, depuis sa cellule malodorante quand il a été arrêté, en passant par les coups de fouet, la couronne d'épines qu'on a déposée sur sa tête, et puis également, pour finir, la croix, la crucifixion. Eh oui. Oui, le péché il fait souffrir. Et il faut absolument qu'il soit banni de la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Plus de péché. Parce que quand tu pèches, tu ne t'en rends pas compte, mais Dieu souffre. Tu provoques de la douleur à Dieu. En plus de ceux qui autour de toi le voient et souffrent de cela. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Demandez au Seigneur. N'hésitez pas. Un jour, quelqu'un me disait, « Ah bon, il suffit de demander à Dieu. Si je demande à Dieu 10 millions, ben, je lui dis, tu n'en auras pas. » C'était un inconverti, c'était un médecin. Mais par contre, si tu lui demandes de pardonner tes péchés, et que tu le demandes avec sincèrement du fond de ton cœur, il va le faire. C'est trop simple. Ta réponse a été ça. « Oh, c'est trop simple. » Mais je dis, « Mais c'est pourtant ce que j'ai vécu. Et c'est que Dieu veut que tu le vives aussi. » Amen. Mais vous savez, quand on parle comme ça à des gens, ils nous respectent. Ils nous respectent. Même si en peu de temps, ils tournent en dérision, ça les fait réfléchir. Alors, tu avais ça ? Oui, j'ai demandé à Dieu, pardon, j'ai pleuré sur mon péché, sur ma misère. J'ai compris que moi aussi, j'avais participé à la crucifixion de Jésus. Lui, le juste, a souffert à cause de moi. Vous savez, le visage, il change. Hein, mais c'est la réalité, c'est ça. Alors, aimez l'œuvre de Dieu. Plus que tout, aimez l'œuvre de Dieu. Ayez envie de plus en plus, ayez soif de servir le Seigneur. D'être un témoignage là où vous êtes. Amen. Et Dieu va vous bénir, il va le faire. puisque vous allez lui demander. Gloire à Dieu.